Mémoire vive,
présentée par Vincent Lemaire
et préparée par Rachel Rimer, une émission de la Fondation pour la mémoire de la Shoah avec RCJ. Nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui dans Mémoire vive un grand témoin qui a rejoint le général de Gaulle à Londres en 1941, un grand témoin et un grand historien, puisqu'on lui doit entre autres deux ouvrages de référence, une histoire de la France libre et un ouvrage en deux volumes consacré aux Français de l'an 40, deux livres parus chez Gallimard. Un nouveau livre vient de paraître lui-même chez Gallimard, une biographie de Georges Boris, sous-titré « 30 ans d'influence, Blum, De Gaulle, Mendès France ». Jean-Louis Crémieux-Briac, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes l'auteur de ces trois livres. Jean-Louis Crémieux-Briac, cela ne vous a pas échappé, beaucoup d'écrivains s'emparent en ce moment de l'histoire de la Seconde Guerre mondiale. Et la France libre sera bien sûr de nouveau à l'honneur bientôt, puisqu'on approche de la commémoration du 70e anniversaire de l'appel du 18 juin 1940. Alors, si vous le voulez bien, une question un peu personnelle pour commencer. Laissons un instant de côté vos activités d'historien. Quels sont vos sentiments quand vous voyez, en cette année 2010, les jeunes générations qui se penchent sur ces événements, la Seconde Guerre mondiale, la France libre, événements que vous avez vécu et traversé, vous, tout jeune homme?
Oui, je m'étonne d'abord qu'il y ait cette curiosité après 70 ans, c'est-à-dire le délai qui sépare la guerre de 1970 de 1940. D'un autre côté, je m'en réjouis si ça peut être la source d'un engagement des jeunes à l'exemple de ces Français qui se sont engagés dans les heures les plus noires de notre histoire.
Alors Jean-Louis Crémieux-Briac, l'homme à qui vous avez consacré ce livre qui vient de sortir, c'est un homme paradoxal. Georges Boris est un homme qui est resté dans l'ombre. Et pourtant, il a vécu les grandes heures de l'histoire du XXe siècle. Il a été successivement le conseiller de Léon Blum. Puis il a vécu l'aventure de la France libre avec le général de Gaulle. Et il a ensuite travaillé de longues années aux côtés de Pierre Mendès France. Le fait pour Georges Boris de rester toujours quelques pas en arrière dans l'ombre des grands hommes qu'il a côtoyés, est-ce qu'à votre avis, Jean-Louis Crémieux-Briac, c'était un choix volontaire?
Je pense que c'est un choix volontaire qui correspondait sans doute à son caractère, peut-être à une certaine timidité ou à une certaine forme d'orgueil, mais il sentait son devoir comme celui d'apporter son intelligence à des hommes d'action peut-être plus adaptés à la décision politique que lui-même.
Alors Georges Boris est né dans une famille juive de Lorraine. Avant de travailler aux côtés de Léon Blum, de Gaulle et de Mendès France, il a exercé plusieurs activités. Il a travaillé dans le commerce familial, puis dans la banque, avant de se lancer dans une carrière de journaliste pour le journal Le Quotidien. Puis il fonde son propre hebdomadaire, nous sommes là dans les années 20 et 30,
oui.
Son propre hebdomadaire qui avait pour titre La Lumière. Quelle était l'ambition de cette publication?
L'ambition de La Lumière était d'apporter la vérité aux Français dans une phase où l'information publique était complètement travestie, à la fois par les silences, par les intérêts et par la finalité de la presse de l'époque. C'était ces années de l'entre-deux-guerres, notamment dans les années 20, ont été des années d'illusions extraordinaires de la bourgeoisie française et de contradictions aussi. Et Boris a essayé d'apporter la vérité, et notamment en matière économique, de faire comprendre que la France n'était plus la grande puissance économique qu'elle avait été avant 1914, que sanctionnée par des réparations excessives, l'Allemagne ne pouvait conduire qu'à des catastrophes, et d'autre part que le franc or de 1914 était une illusion qu'on ne pouvait pas reconstituer. Non. Et dans les années 30, il a été le premier, avant Paul Reynaud, à militer pour une dévaluation du franc indispensable pour maintenir la compétitivité de l'économie française.
Alors, période de questions économiques brûlantes, nous en connaissons une autre aujourd'hui, mais période aussi marquée par un climat politique absolument délétère et une violence des échanges politiques qui nous étonne encore aujourd'hui. Alors, c'est en 1938 qu'il rentre, Georges Boris, dans le gouvernement de Léon Blum, dans le deuxième cabinet Blum, en mars 1938, où il s'occupe justement plus particulièrement de la définition d'un nouveau programme économique inspiré des thèses qui étaient très nouvelles à l'époque de John Maynard Keynes. Et là donc, Jean-Louis Crémieux-Briac, pour bien comprendre les enjeux de cette époque, il faut rappeler ce climat politique que j'évoquais, et notamment les attaques antisémites dont il est l'objet, Georges Boris. Alors, dans Gringoire, dans Je suis partout, les publications de la presse d'extrême droite, des attaques dirigées contre Georges Boris et contre Léon Blum, surtout, qui sont d'une violence insensée.
Insensée. Cette presse d'extrême droite ne pouvait pas admettre que Boris soit un juif français de Lorraine depuis des siècles. Et Gringoire, par exemple, avait offert 1000 francs à celui de ses lecteurs qui apporterait le nom réel de Georges Boris et la date de sa naturalisation, comme s'il avait été, ce qui était sous-entendu, un juif immigré de Bulgarie de fraîche date. C'était un élément de cette campagne ignoble qui faisait que Léon Blum était traité dans la boue et Mendès France, jeune sous-secrétaire d'État au Trésor avec lequel Boris a collaboré, était affublé des noms de Boris Bessarabie, Boris Bukovine, Mendès Bessarabie, Mendès Bukovine, etc.
Alors Georges Boris était un homme clairvoyant, donc à la tête de cette publication, La Lumière, puis donc engagé en politique aux côtés de Mendès et de Léon Blum. Et il avait, dites-vous, dans cet ouvrage sorti récemment, Jean-Louis Crémieux-Briac, il avait très tôt perçu la menace de l'Allemagne hitlérienne. Il était par exemple tout à fait opposé au traité de Munich.
Tout à fait. Il a été un des quelques rares journalistes français qui ont milité contre Munich, qui ont dénoncé l'illusion des traités et des accords de Munich. Ceci, évidemment, dans cette période où la France faisait encore des illusions et où certains espéraient un apaisement en sacrifiant encore peut-être autre chose, c'est-à-dire, pour certains, la Pologne.
Alors, à l'arrivée, je crois, à l'âge de 50 ans, il s'engage volontaire donc au moment de la déclaration de la Seconde Guerre mondiale. Il rejoint très vite Londres, en juin 1940. Et à Londres, il rencontre très vite le général de Gaulle. Alors, vous racontez dans cette biographie, Jean-Louis Crémieux-Briac, donc intitulée « Georges Boris, 30 ans d'influence », vous racontez cette scène étonnante parce qu'on lui signale donc le discours du général de Gaulle à Radio Londres le 18 juin 40, et dès le 19 juin, il va voir ce général donc, qui vient de prononcer ce discours, il lui rend visite dans son bureau londonien, et il trouve là, de Gaulle, un homme presque seul, qui n'a pour ainsi dire aucune équipe autour de lui, à peine un bureau, et dans la précipitation des événements, le général de Gaulle lui demande à Georges Boris d'organiser comme ça, au débeauté, les premières visites des gens qui viennent le rencontrer.
C'est ça. Il vient le 19 juin au matin se mettre à la disposition de De Gaulle. Et De Gaulle, qui n'a personne avec lui, mais qui reçoit quelques coups de téléphone de curieux ou de futurs adhérents, lui demande de servir de planton et de recevoir des communications téléphoniques.
Alors, il va très vite s'engager plus avant, aux côtés du général de Gaulle, Georges Boris. L'ancien journaliste devient le secrétaire du service d'information de la France libre. Il tiendra même une chronique hebdomadaire à Radio Londres, intitulée « Un officier français libre vous parle ».
Sur les questions économiques.
Sur les questions économiques. Alors, on va être obligé d'avancer à grands pas dans cette émission, Jean-Louis Crémieux-Briac. Et on en arrive à la page 170 de votre livre, au chapitre que vous avez intitulé « Le comité exécutif de propagande de la France libre et les déportations de juifs ». Le comité qui, à l'été 1942, se penche donc sur l'actualité dramatique de la rafle du Veldiv. C'est l'une des premières réunions de ce comité. Quelle est la réaction de la France libre à Londres quand elle apprend les sinistres nouvelles qui viennent de la France occupée ?
La France libre londonienne n'a pas connu les rafles du Veldiv, mais dès les premiers jours d'août 1942, nous avons reçu des télégrammes nous informant que Laval avait concédé aux Allemands la livraison de 10 000 juifs étrangers de la zone non occupée, dont 3 000 avaient été déjà livrés aux Allemands. Et la réaction d'André Philippe, qui présidait le comité, tout juste arrivé de France, député socialiste de Lyon et nommé trois jours avant commissaire national à l'intérieur par De Gaulle, la réaction a été extrêmement vive. Il a été immédiatement décidé, sur l'impulsion de Philippe, mais avec l'accord de tous, de lancer une campagne de radio extrêmement vive pour dénoncer ce scandale et ce crime. Crime aux yeux de Philippe, non seulement à l'égard de la tradition démocratique, de la tradition religieuse, catholique, de la tradition classique gréco-romaine. Et tout l'été 1942, une campagne extrêmement vive, presque quotidienne, a été menée par tous les dirigeants de la France libre et finalement par Maritain, qui a fait une superbe mission en septembre 1942, Juifs, mes frères.
Alors, Georges Boris, vous, à l'époque, vous aviez donc rejoint la France libre, hein, vous avez rejoint Londres après avoir été prisonnier, donc à la fin de l'année 1941. Déjà, vous travaillez aux côtés de Georges Boris.
J'étais aux côtés de Georges Boris et j'étais secrétaire de ce comité exécutif de propagande.
Alors, vous racontez, justement, à propos des activités de ce comité exécutif de propagande, que cette mobilisation de l'été 42 pour dénoncer la persécution des Juifs de France, elle est effectivement massive, mais elle a ceci d'étonnant, que vous dites qu'elle ne sera pas, je vous cite là, elle ne sera pas renouvelée les années suivantes alors que s'instaure l'extermination méthodique des Juifs.
Oui, c'est en effet une chose qui peut paraître tout à fait curieuse. Il y a eu de temps en temps, de loin en loin, des appels et des informations données sur la BBC par des Français libres ou non pour faire connaître les persécutions, l'extermination, pour mentionner même les chambres à gaz des 43. Mais il n'y a jamais eu, à partir de, au-delà de fin 42, de campagne aussi systématique que ça a été le cas dans l'été 42, et en aucun cas de consigne officielle donnée par les autorités de la France libre demandant d'aider ou d'abriter ou de sauver les Juifs.
Alors, vous racontez le contexte de cette mobilisation de la France libre à Londres, cette mobilisation qui ne va pas sans accroc. Vous rappelez à la page 174 de votre livre, Jean-Louis Crémieux-Briac, des propos dont vous dites, et on est tout à fait prêt à vous croire, évidemment, et à vous suivre, qu'ils sont stupéfiants, relus avec le recul de l'histoire. Vous rappelez, page 174, un texte de Jacques Soustelle, qui date donc de l'année 1942, je crois. Je le cite, « Après les Juifs, ce sera le tour des Ariens. » Les Allemands se font la main sur les Juifs. Notre propagande, donc la propagande de la France libre, doit prendre une position de principe. Il est entendu que les Juifs ne nous intéressent pas en tant que tels.
Oui, ce propos de la part d'un homme qui n'était aucunement antisémite, qui ne l'a jamais été à aucun égard, c'est quelque chose de tout à fait extraordinaire. Il faut voir qu'au même moment que nous sont arrivées donc ces nouvelles concernant la livraison de Juifs de zones non occupées, nous arrivaient des télégrammes annonçant que Laval, d'autre part, avait décidé de livrer aux Allemands 350 000 travailleurs qualifiés sous le prétexte de la relève. Et il fallait naturellement à tout prix empêcher que ces travailleurs aillent se mettre au service des usines d'armement allemandes. Ce qui explique, pour une part, la réaction de Soustelle qui voyait loin et pragmatique.
Alors Jean-Louis Crémieux-Briac, nous sommes en 2010 et il faut se garder d'une vision anachronique des faits, se méfier de l'illusion rétrospective, si je reprends là l'expression de Claude Lanzmann, hein, qu'il utilise beaucoup en ce moment dans le débat qu'il oppose à Yannick Enel à propos de Yann Karski, se méfier donc de l'illusion rétrospective. Alors il faut que vous nous racontiez ce qu'était la France libre en vrai et non pas la légende. C'est au début, et ça on le comprend bien en lisant votre livre, une aventure improvisée bien sûr, qui reflète la violence des événements. Et en même temps, c'est un drôle d'alliage, cette France libre, parce que ceux qui ont fait le choix de partir à Londres, ils venaient de milieux politiques très différents, et pour ne pas dire carrément opposés souvent.
Absolument. Il y avait auprès de De Gaulle une minorité d'hommes de gauche et de socialistes, et au quartier général de De Gaulle, il n'y avait guère que trois hommes de gauche marquants, Cassin, Henri Hawk, syndicaliste et socialiste, et Boris lui-même. En revanche, la majorité des ralliés à De Gaulle parmi les officiers étaient des hommes venant de l'Action française, des Croix de Feu ou de l'extrême droite, dont certains étaient, il faut bien le dire, antisémites, anti-républicains, ou en tout cas très très opposés à tout ce qui avait marqué le fonctionnement du régime de la fin de la Troisième République. Et De Gaulle a dû tenir compte pendant un an de cette position de ces officiers, ne voulant pas marqué de division, mais au contraire, tenant à faire de la France libre un mouvement essentiellement patriotique et militaire, au moins dans la première année. Il avait des vues politiques à terme qui sont évidentes dès 1940, mais qui ne se révèlent clairement qu'à l'automne 1941, lorsqu'il crée un comité national français, c'est-à-dire un pseudo-gouvernement opposé au gouvernement de Vichy, Et d'autre part, lorsque le 15 novembre 1941, ça c'est la première fois que je l'ai vu, entendu en public dans une grande manifestation, il met sur le même plan la devise « Liberté, égalité, fraternité » bannie pendant un an, et la devise « Honneur et patrie » qui était celle de la France libre, la devise de nos drapeaux. Pour moi c'était naturel, mais pendant un an, « Liberté, égalité, fraternité » avait dû être mis sous le boisseau.
Alors revenons à Georges Boris, auquel vous consacrez cette biographie aujourd'hui, Jean-Louis Crémieux-Briac. Il aura des responsabilités importantes dans les services de la France libre, on l'a dit, mais on le disait au début de cette émission, il se tiendra toujours en retrait, à Londres également. Alors comment l'expliquer? Est-ce que, d'après vous, c'est qu'il ne voulait justement pas porter préjudice au général de Gaulle? Son nom, Georges Boris, est associé à celui de Léon Blum. Il avait participé, on l'a dit, à l'un des cabinets Blum avant la guerre. Blum, qui est la cible privilégiée des attaques antisémites de la propagande de l'occupant nazi et de Vichy. Et donc, il ne voulait pas que son nom apparaisse trop proche de celui du général de Gaulle. C'est une hypothèse?
C'est une certitude pour les deux premières années. Et il l'a exprimé, il a dit à de Gaulle... Et il a proposé à de Gaulle clairement de le maintenir dans l'ombre, dans une position subordonnée. C'est seulement donc en 1942 et surtout en 1943 qu'il a eu les responsabilités de premier plan, mais sans que son nom soit prononcé. De premier plan, oui, car c'est lui qui, à Londres, tandis que le général de Gaulle était parti pour Alger, l'essentiel de l'état-major français libre parti pour Alger... C'est lui qui a pratiquement été l'homme fort du commissariat à l'intérieur et on peut le dire, piloté les relations avec la résistance politique intérieure jusqu'à l'insurrection nationale.
D'ailleurs, pour bien comprendre le contexte, Jean-Louis Crémieux-Briac, il faut bien voir qu'à l'époque, la propagande de Vichy, l'une de ses attaques privilégiées portées contre la France libre et contre de Gaulle, c'est de dire que de Gaulle, à Londres, est entouré de juifs.
Et que lui-même était le fourrier des juifs qui ramènerait les juifs en France. Ce qui était un slogan de Radio Paris, ce qui avait été affiché sur les murs de Paris, et qui avait donné lieu à une série d'émissions antisémites en avril 1941, au cours desquelles Boris lui-même avait été très traîné dans la boue. Il avait exigé de la BBC, d'ailleurs, qu'une rectification soit faite à ce sujet, qu'il soit dit... au micro de la BBC que M. Georges Boris était juif d'origine, mais qu'il s'était engagé à 51 ans à titre militaire et qu'il continuait à faire son devoir dans l'honneur.
Alors, Jean-Louis Crémieux-Briac, vous étiez à Londres à l'époque. Quelle a été la réponse du général de Gaulle lui-même à ces attaques? Comment réagissait-il à l'antisémitisme de la propagande de Vichy et à l'antisémitisme qui pouvait exister à Londres même?
De Gaulle n'était nullement antisémite. De Gaulle, dès le mois d'août ou de septembre 1940, avait écrit une lettre, je ne sais plus si c'est Albert Cohen, représentant du Congrès juif mondial, ou au rabbin Weiss, spécifiant qu'il ne faisait pas de différence entre juifs et non-juifs, et en 1941, une lettre alors beaucoup plus explicite, indiquant qu'au jour de la libération, tous les droits devraient être restaurés, restitués à ceux qui en avaient été privés, et que chacun, donc, devrait recouvrer ses droits en même temps que ses devoirs.
D'ailleurs, il interviendra à un moment où Georges Boris donc, est menacé, attaqué justement en tant que juif. Il interviendra pour mettre... court à une sorte de fronde qui se monte à un moment contre
une
Georges
Boris. Une
fronde
s'est montée, c'est une affaire tout à fait curieuse, une fronde s'est montée contre Boris, et c'est effectivement que l'un des conseillers, enfin des chefs d'état-major de Gaulle de l'époque, Pierre Tissier, maître des requêtes au Conseil d'État, a voulu flanquer à la porte en lui disant qu'il n'y avait pas de place à la France libre pour des socialistes et des juifs. Et de Gaulle, informé de cet esclandre, s'est indigné, a déclaré que nous ne serons jamais assez nombreux et a dit, il y a plus clairement, il y a ceux qui sont debout et ceux qui veulent se coucher. Monsieur Boris est de ceux qui sont debout. Et il a dit qu'il ne voulait plus entendre des propos tels que ceux qui avaient été prononcés.
Alors dans votre livre, Jean-Louis Crémieux-Briac, à la page 269, au chapitre intitulé « La BBC de 1943-1944 et les persécutions juives », on peut lire On n'ignore pas, à Londres, en 1943 et 1944, les atrocités commises contre les Juifs d'Europe de l'Est, mais, j'ouvre les guillemets, personne n'a conscience alors de la spécificité de la politique d'extermination des Juifs.
On ne s'en rend pas compte tout en sachant sans savoir. Et évidemment, on ne peut pas imaginer, on ne peut pas se représenter. Et pourtant, on sait des choses. On sait qu'il y a des chambres à gaz, on sait que le nombre de Juifs vraisemblablement massacrés, exterminés, est de l'ordre de 3 millions. Et pour ma part, étant chargé du courrier documentaire envoyé à la délégation générale clandestine et au mouvement clandestin, j'ai fait faire une étude à ce sujet en janvier 1943, datée du 23 janvier 1944, qui a été envoyée à 27 destinataires en France occupée, indiquant notamment que 3 millions de Juifs avaient été exterminés et que vraisemblablement 2 millions d'autres avaient été déportés.
Alors je continue à vous citer, Jean-Louis Crémieux-Briac. Nous sommes là à la page 271 de votre ouvrage. J'ouvre encore les guillemets. L'analyste d'aujourd'hui doit comprendre que pour les porte-paroles de la conscience chrétienne, aussi bien que pour Georges Boris ou pour moi, français, juif, agnostique et patriote français, les persécutions juives ne sont, dans cette phase exaspérée de la guerre, qu'un aspect parmi d'autres des infamies de Vichy et des crimes hitlériens qui accablent la collectivité nationale.
C'est pas une chose facile à dire aujourd'hui, car effectivement, les responsables de l'action en France à Londres et de la propagande vers la France étaient pour la plupart des Juifs, et le plus influent était Georges Boris lui-même, mais à ses côtés un homme comme André Manuel au BCRA, ou en France le délégué général clandestin par intérim Jacques Bingen. Il faut dire qu'effectivement le problème juif était pour nous douloureux, mais n'était pas le problème central. Le problème central, c'était préparer l'insurrection nationale pour la libération de la France aussi rapide que possible, et une insurrection nationale et une libération réussie. Et ce qui libérerait naturellement les Juifs emprisonnés en France et empêcherait la continuation des atrocités à leur égard. Mais dire qu'il y a eu abandon des Juifs français, je trouve que c'est une vue anachronique et inacceptable. Cela dit, moi, j'ai participé à ces réunions. J'avais jeune officier, j'avais néanmoins voix délibérative. Je n'ai pas élevé la voix pour dire qu'il fallait donner publiquement instruction aux Français d'aider les Juifs. Je ne l'ai pas fait. C'est une faute. Mais encore, je le répète encore, nous étions entièrement tournés vers cet objectif qui était l'insurrection nationale.
Quand vous dites aujourd'hui, Jean-Louis Crémieux-Briac, c'est une faute. À l'époque, vous n'aviez évidemment même pas conscience du problème. Il n'était pas venu présent à votre esprit. Enfin, vous n'aviez pas conscience qu'il vous étiez face à un choix. Parler ou ne pas parler, dire ou ne pas dire, prévenir ou ne pas prévenir.
Non, non. Nous n'avons pas été devant un choix. Il y avait une priorité qui absorbait toutes nos pensées, qui était de préparer l'insurrection nationale. Alors, il y a eu des appels à la BBC, donnant des informations sur des persécutions, des détails sur des atrocités. Il y en a eu. Il y a eu des appels discontinus, occasionnels, pour dire qu'il fallait aider. Des appels aux fonctionnaires, mais je le répète, jamais nous n'avons donné une instruction officielle, un ordre disant aux Français « sauvez les Juifs ».
Témoin et historien, vous l'êtes, Jean-Louis Crémieux-Briac, un grand merci. Merci d'avoir rendu visite à notre studio de Mémoire vive aujourd'hui. Je renvoie tous les auditeurs à votre ouvrage récent intitulé « Georges Boris, 30 ans d'influence, Blum, De Gaulle, Mendès France », publié chez Gallimard dans la collection de la Nouvelle Revue Française. Je vous remercie encore.